Carnet de route, une émission proposée par l'ASBL Samarcande. Le carnet de route, une heure d'antenne pour les ados. Bonjour à tous, et nous voilà pour une émission Carnet de route, aujourd'hui en compagnie de Striker. Et je vous rappelle que le Carnet de route, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le souhaitent de s'exprimer en toute liberté. Alors bonjour Striker.
Bonjour.
Comme tu le faisais remarquer tout à l'heure, il y a un petit bruit de tondeuse à gazon derrière nous.
Exactement.
Parce que, comme je le disais, on se trouve dans une...
IPPJ.
Et dans une caravane.
Ouais.
Striker, on s'est vu la semaine passée.
Ouais.
Pour faire une prépa.
Ouais.
Et est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs comment tu as ressenti ce moment de préparation et ce que l'on a fait à ce moment-là?
C'était agréable parce que voilà, on était à deux, rien qu'à deux. On s'est posé sur l'herbe, on a discuté et tout ça, on a un peu fait connaissance. Et bon, il n'y avait personne qui nous ennuyait ni rien. Et je trouve que c'était chouette, ouais.
Est-ce que tu penses que c'est important de vous donner comme ça la parole?
Ben, oui et non, oui, pour ceux qui le veulent et qui désirent se faire écouter, ouais, ça peut être intéressant. Pour d'autres qui sont plus renfermés, ben, ils gardent tout dans leur corps, et voilà, et c'est tout. Ceux qui veulent dire, ben, ils parlent, et c'est tout.
T'allais dire dans leur cœur.
Ouais, voilà, exactement.
Parce que tu penses que quand on fait ce travail-là, il faut s'exprimer avec le cœur?
Non, mais quand quelqu'un a envie de parler, ben il parle et il raconte pas de conneries, il dit ce qu'il pense et ce la vérité, donc voilà. Je veux dire, on vient pas ici pour frimer ou pour raconter des conneries, on vient ici pour dire ce qu'on pense, et si on vient, c'est qu'on a besoin de s'exprimer.
Et toi, t'as choisi de faire le travail parce que t'avais l'impression de... tu avais cette envie-là?
Ben, au départ, ben, je me dis que ouais, ça pouvait être chouette parce que voilà, j'avais jamais tenté l'expérience et donc je me suis dit pourquoi pas essayer, mais par après, j'ai vu quand on a fait la préparation, comme j'expliquais là tantôt, que ça allait un peu plus loin que juste discuter, comment, de choses qu'on avait simplement nous envie de parler, mais c'est, voilà, moi je suis venu ici pour discuter.
Mmh. Et on est là pour ça.
Ouais, voilà.
Et dis-moi Striker, pour ta présentation, tu as 17 ans.
Oui.
Tu viens de la région de Tubize.
Ouais.
Où tu me disais vivre chez ta tante.
Oui, voilà, exactement.
Et dans les sujets, hein, tu avais choisi certaines choses dont tu voulais parler aujourd'hui. Il y avait, tu avais parlé beaucoup du monde de la nuit.
Ouais.
De la rue.
Ouais.
Et de ta famille de substitution.
Ouais, voilà, famille de cœur.
Aujourd'hui, hein, moi j'ai sous les yeux de la préparation, hein, mm-hmm. Et je veux pas être maladroit par rapport à ce que mm-hmm. tu m'avais dit, donc je vais te rappeler certaines choses.
No souci.
Et la première chose dont tu m'avais parlé, c'était moi qui t'avais posé la question, mais pourquoi mm-hmm. t'étais si vite, tu vois, et si longtemps dans la rue? Mm-hmm. Et c'est parce que toi, tes parents, ils sont décédés.
Ouais.
À un moment, tu as eu, bah, il a fallu te retrouver
dans la rue.
Et par rapport à ça, il fallait retrouver des repères aussi.
Oh ouais.
Et tu m'avais parlé d'un tuteur.
Ouais. Ben ouais, en fait, à mes 12 ans, quand mes parents sont décédés, j'ai hérité d'un tuteur. On m'a demandé si bon, je voulais choisir quelqu'un avec des liens familiaux ou quelqu'un qui était de l'extérieur. Et moi, je me suis dit que c'était mieux de choisir quelqu'un de l'extérieur parce que bon, si on crée un autre lien que familial avec une personne qui fait partie de la famille, ça pouvait créer des tensions et tout ça. Donc, je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant de prendre quelqu'un de l'extérieur. Et donc on m'a dit que je pouvais prendre quelqu'un d'autre et j'ai choisi donc un avocat de Nivelles. Et bon, ben avec ce tuteur il y a des hauts et des bas, c'est pas toujours évident, mais faut faire avec.
Et un tuteur, c'est censé remplacer...
Ouais, voilà, c'est censé remplacer les parents, en fait. Le tuteur a pour quand il signe le contrat d'être sous ma tutelle, ça veut dire que il gère tout ce qui est administratif, je suis sous sa responsabilité et ben pour tout ce qui est l'héritage des parents, les biens et tout, c'est aussi lui qui gère. Mmh.
Et quand tu disais tout à l'heure que tu avais choisi une personne extérieure à la famille,
oui.
C'est que tu as encore quand même des liens, des personnes de ta famille qui vivent encore.
Hein. Oui, oui, oui. Bah, donc, en fait, quand mes parents étaient en vie, je voyais encore régulièrement ma famille, mais depuis qu'ils sont plus là, bah, vu que mes parents avaient, on va dire, beaucoup d'argent, bah, ils venaient surtout pour ça, pour l'argent. Et bon, par après, bah, quand ils sont partis et tout ça, j'ai plus vu grand monde. Ils m'ont tous dit, écoute, nous on veut plus rien savoir de toi, etc. C'est dur à entendre, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et par après, ben, j'ai juste eu mes trois sœurs qui étaient avec moi. Mais comment, on est six en tout. J'ai deux frères qui sont décédés à cause de la drogue. Et j'ai trois sœurs, dont une qui est alcoolique et prostituée, l'autre qui est droguée, et l'autre qui est en dépression. Mais bon, il y en a deux qui, ça passe encore, quoi. Ils arrivent à gérer et tout, donc... Il y en a une chez qui je retournais le week-end, etc. Et c'est tout, quoi.
Et comment ça se fait que... Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de toutes et de tous pour...
Pour partir ?
Non, pour être dans la drogue, par exemple.
Ben, bon, ma sœur, j'étais pas encore née, on va dire, quand... Parce que, bon, on a beaucoup d'âge de décalage. Celle qui est droguée, par exemple, ben, elle a 34 ans maintenant. Donc on a quelques années de différence, donc je saurais pas exactement dire pourquoi elle est tombée dedans ou comment ça s'est fait. Je sais juste que ben voilà, maintenant elle est encore dedans et que tout ce que j'espère c'est qu'elle pourra s'en sortir un jour, parce que c'est pas très très chouette de savoir qu'on a une sœur qui est droguée.
Et tu me disais qu'aussi ton tuteur, t'avais l'impression qu'il faisait pas bien son boulot.
Ouais ouais, c'est sûr, parce que bon, de temps en temps, bon par exemple quand mes parents sont décédés, bon ben les deux premières années ça allait, tout se passait bien et tout, je lui demandais quelque chose, ben il me disait oui. D'autres fois il me disait non, mais bon il avait certaines raisons qui étaient valables quoi, donc je disais rien et tout. Mais par après j'ai vu que le contact y passait beaucoup moins bien et. Par exemple, quand je lui demandais, par exemple, d'avoir un peu d'argent pour aller m'acheter des vêtements, etc., il me demandait de lui faire une liste, de lui envoyer par fax, etc., je le faisais, mais par après, il me disait que non, c'était pas possible, ou bien qu'il avait pas le temps, etc., et je lui ai dit, écoutez, si vous avez pris le rôle de tuteur, assumez-le jusqu'au bout, je veux dire, c'est tuteur, c'est pas juste signer des papiers, etc., c'est aussi créer un lien avec le jeune. Donc, Je lui demandais tout ça, et de temps en temps il me refusait, mais cette fois-ci il n'avait pas de raison valable ni rien. Et je lui demandais pourquoi et tout, il me disait voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, moi je dois gérer ta situation, etc., je dois faire le bon père de famille et tout. Moi je lui disais qu'il arrêtait de me prendre la tête avec toutes ces salades, que pour moi ça servait pas à grand chose tout ça. Et voilà, les liens sont toujours comme ça depuis, on s'entend pas très très bien et tout, donc...
Mais tu as déjà vécu chez lui ?
Non, en fait, c'est mon tuteur légal, mais... je peux pas loger chez lui, etc., en fait, il gère juste l'administration et tout, et c'est tout, quoi. Je peux pas loger chez lui.
Et pourquoi ?
Ben, c'est le tribunal qui a dit que c'était comme ça, je saurais pas en dire plus.
Mais par rapport à ce que tu disais tantôt, tu disais être tuteur, c'est pas simplement signer des papiers, c'est aussi avoir, tu vois, un lien plus,
ouais,
plus
voilà.
Profond.
C'est ça, ben, quand je dis ça, ça veut dire que si c'est mon tuteur, il pourrait de temps en temps faire quelque chose avec moi, ou bien une fois aller boire un verre et discuter un peu de tout ce qui se passe, de ma situation et tout, de voir s'il y aurait des choses qui pourraient faire que ça irait mieux, voir vers quoi je pourrais aller ou des choses comme ça, alors qu'il est seulement là aux audiences quand je vais au tribunal de la jeunesse, ou bien j'ai juste des contacts avec lui téléphoniques, rien d'autre, quoi.
Et si, je vais peut-être dire une grosse connerie, mais si tu pourrais être mécontent de ton tuteur, par exemple, et demander...
Un changement.
Peut-être pas, ouais. Peut-être pas aussi radical, mais pour avoir un suivi un peu plus...
Ouais, je vois. Ben, en fait, j'y ai déjà songé, donc j'y ai déjà pensé. J'ai fait une demande, donc j'en ai parlé à mon avocate, et elle m'a dit que je devais en parler au SPJ, donc SPJ, ça veut dire Service de Protection Judiciaire. Et ils m'ont dit que si je voulais changer de tuteur, ils m'ont dit que je devais écrire sur un papier le pourquoi, etc. Puis je me suis dit que faire tout un tralala pour juste certaines raisons, ça servait à rien. Donc j'ai continué avec lui et tout, et ça change pas grand chose. Je lui ai déjà dit en plus que bon, si ça continuait, je voulais changer de tuteur, etc. Mais il m'a dit, écoute, fais ce que tu veux. Moi, je lâcherai pas parce que voilà, tu es ce que tu es et moi j'ai envie de te faire changer et tout. Mais je lui ai déjà dit, vous me dites que vous devez gérer ma situation, faire le bon père de famille et tout, mais faut pas croire que vous allez être mon père, quoi. Et il accepte pas ça, donc quand je lui dis ça, il me dit, ouais, tu veux bien être poli, parce que c'est juste des contacts téléphoniques, et quand je l'ai au téléphone, il prend de la facilité, il fouille, donc il me dit comme ça, oui, arrête de me manquer de respect, parce qu'autrement je te raccroche au nez, etc. Et sur ça, vu que moi j'ai des choses encore à lui dire, je me rabaisse et je ferme ma gueule, quoi.
Et par rapport à lui, ce que tu m'avais dit aussi, c'est qu'il, comme il n'avait pas bien fait son travail, il t'a laissé dans la rue parce qu'il n'a pas réussi à trouver un logement, tu
Ouais,
vois.
voilà, en fait, je vais expliquer tout ça du début. Alors, en fait, quand mes parents sont décédés, j'étais dans une IMP, donc Institut Médical Pédiatrique, et j'étais là-bas pendant un an, quelque chose comme ça, et je me plaisais pas du tout parce que bon, j'avais 12 ans, il y avait le décès de mes parents qui faisait que ça allait pas très bien dans ma tête et tout, j'arrivais pas à m'intégrer dans le groupe, etc. Donc, je faisais énormément de fugues. Et après un certain moment, je leur disais tout ça, écoutez, moi ça va pas, j'aimerais bien changer et tout, changer d'IMP, etc. Et ils m'ont dit, écoute, on va essayer de faire le nécessaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après un an, ben j'ai été transféré et je me suis retrouvé dans un autre IMP. Et là-bas, ça s'est passé beaucoup mieux. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait 2 ans, quelque chose comme ça. Donc ça faisait que j'avais 16 ans. Après, vers mes 16 ans et demi, j'ai pu accéder à l'autonomie, donc pouvoir me gérer tout seul, etc., pour me lancer plus tard dans la vie. Et bon, quand j'étais en autonomie, ça s'est pas très bien passé. Ce qui s'est passé, c'est que bon, quand on est en autonomie, on est tout seul dans un appartement ou dans un code, ça dépend. Et bon, moi, à un moment, la solitude, j'en avais marre. Donc, ce que j'ai fait, c'est les propriétaires, un jour, ils sont venus et ils m'ont dit, écoute, on va te laisser la maison pour toi tout seul. Pourquoi? Parce qu'on part en vacances 3 semaines. Et ils partaient en France. Et donc, pendant ces 3 semaines-là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, c'est bon, ils se partent 3 semaines, on va faire une petite fiesta, quoi. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé des potes à moi et tout. Donc, on a fait un peu la fête. Ça a un peu foiré, après on a trouvé de l'alcool et tout ça dans sa cave et tout, donc on a un peu abusé de l'alcool aussi. Et par après, moi je me suis endormi et le lendemain matin je me suis réveillé parce que comme mes éducateurs ils sont venus sonner pour voir un peu comment ça se fait que je m'étais pas réveillé et tout. Ils sont venus et moi en sortant de mon lit, je descends en bas pour aller les ouvrir et tout. Et en descendant, je découvre qu'ils avaient foutu la merde partout, qu'il manquait plein de choses et tout. Je vais pour ouvrir la porte et bon, vu que je venais de le découvrir en même temps que les éducateurs, je savais pas trop quoi dire. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû inventer une couille, quoi. J'ai dû dire qu'il y avait eu un cambriolage. Et au début, ils m'ont cru, etc. Donc j'ai fermé ma gueule, mais après ils ont plus réfléchi et ils se sont dit que certaines personnes, parce que les jeunes que j'ai invités, ils étaient avec moi en autonomie, donc ils étaient pas dans le même appartement que moi, mais ils étaient dans le, comment je vais dire, dans, on va dire dans le même internat, quoi. C'est un genre de truc où c'est plusieurs jeunes qui se préparent à l'autonomie, mais ils sont à plein d'endroits différents dans la région. Alors ils ont vu que tous ces jeunes-là étaient partis pendant la nuit et tout, et puis ils ont vu que c'était eux qui avaient fait tout ça. Donc moi j'ai rien su dire, j'ai pas su masquer l'affaire ni rien. Et comment, ils m'ont dit comme ça, les éducateurs m'ont dit, oui, bon, on va avoir une petite réunion, on va voir ce qu'on peut faire et tout. Et j'ai dit, écoutez, moi je veux pas être envoyé, etc. Je veux pas avoir de problème. Ce que je veux, c'est pouvoir continuer et qu'on me laisse une dernière chance. Et malheureusement, après la réunion, ils m'ont dit comme ça que c'était plus possible avec moi et tout. Et ils m'ont dit, tu fais tes bagages et tu t'en vas. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le monde de la rue. Parce que bon, pendant quoi, on va dire, pendant 1 heure, j'ai attendu la fin de la réunion, ils m'ont parlé et tout. Et ils m'ont dit que je devais faire mes bagages et partir, mais je leur ai dit, mais je vais où alors? Et ils m'ont dit, écoute, tu vas chez ta sœur ou quelque chose comme ça. Et j'ai fait ok, j'ai été à la porte de ma sœur. Elle m'a hébergé pendant un petit temps, on va dire quoi, une semaine ou deux. Mais après, financièrement, elle s'en sortait plus. Alors bon, j'ai dû rester dans la rue. Mais bon, c'est pas toujours évident. La rue,
Tu avais quel âge à ce moment-là?
ben, j'allais avoir 17 ans en fait. C'était en juillet, août, septembre, octobre et novembre 2008. Donc pendant tous ces mois-là, ben je faisais du porte-à-porte chez les potes. J'ai su donc chez la tante de cœur, comme vous avez dit là tantôt, ben j'ai été chez elle aussi énormément de temps et tout. Donc bon, il y a des fois où j'avais de la chance, d'autres où non, où dans ces moments-là, ben je devais dormir dans un arrêt de bus ou des trucs comme ça. Et bon, c'est pas toujours chouette. Le mal en plein milieu de la nuit, on se réveille, on se rend compte qu'on a froid. On se lève pour aller à un endroit plus chaud, on trouve plus rien et après on se dit putain, pourquoi je suis pas resté à l'arrêt de bus? Au moins là j'étais abrité.
Mais comment ça se fait que t'as pas eu l'idée? Parce que normalement, je suis même pas sûr, hein, mais en Belgique, on peut pas laisser un jeune dehors.
Oui, je sais. Oui, je sais, c'est en fait
Mais pourquoi ça te fait sourire, ça?
mais parce que vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Le truc c'est que j'ai été donc au SPJ, le service de protection judiciaire, c'est eux qui étaient censés s'occuper de moi. Et apparemment, eux aussi faisaient les démarches pour me trouver un autre centre et tout. Et je leur disais, écoutez, moi, je veux pas rester dans la rue et tout. Et ils essayaient de trouver un CAU, donc un centre d'accueil d'urgence. Et ils me disaient, écoute, il y a plus de place et tout ça. Essaye de te démerder de ton côté. Et nous, on va faire notre possible du nôtre. Et on verra ce qu'on peut faire. Et je leur ai dit, écoutez, vous pouvez pas me laisser dans la rue comme ça et tout. Et ils me disaient, si, écoute, nous, on n'a pas de place, on n'a pas de place. C'est comme ça. Et ils m'ont dit que si je trouvais vraiment pas de solution, je pouvais demander à mon tuteur de l'argent pour aller dans une auberge de jeunesse. Alors c'est ce que j'ai fait, il a dit oui une fois, deux fois, trois fois, mais après il en a eu marre et il m'a dit écoute, toi aussi fais des démarches pour pouvoir justement comment trouver quelque chose pour continuer l'autonomie. Et je lui ai dit ok, ça va, je vais faire ça. Alors je me suis un peu renseigné et on m'a donné une adresse donc à Ixelles, à Bruxelles. Et c'était quoi un genre de CAU mais beaucoup plus court en fait, le séjour est beaucoup plus court. Et là-bas en fait ce qui se passe c'est que on va faire un premier entretien pour un peu savoir ce qui se passe. Par après ils nous disent écoute, reviens la semaine prochaine et on te dit quoi, s'il y a de la place et si tu peux rentrer. Donc j'ai attendu une semaine, j'ai dû encore me débrouiller et tout ça.
Je te coupe mais
ouais, bien sûr.
c'est que tu sais que tu moi je pars du principe que je fais confiance aux jeunes que je reçois. Et donc pour moi, tout ce que tu dis, c'est sincère, c'est vrai.
Oh, oui.
Donc à partir de là, c'est pas des accusations que tu fais là, mais tu dénonces un système qui ne porte pas secours quelque part à un jeune, qui le laisse dehors.
Oh,
Et
ouais.
ça, je trouve que c'est quand même assez grave, tu vois.
Ben oui, c'est peut-être grave, mais en attendant, c'est la réalité. Moi, le SPJ, bon, au début aussi, je pensais, je me disais, c'est pour ça d'ailleurs que je me la coulais douce quand j'étais en autonomie, etc. Je me dis, bof. De toute façon, même si je foire, ils vont quand même me trouver une autre solution parce que j'ai pas d'endroit où aller, je suis orphelin, etc. Donc,
Quand tu parles d'autonomie, c'est quand t'as foutu le
ouais,
bordel dans la maison.
voilà. Mais à ce moment-là aussi, je pensais pas aux conséquences qu'il pourrait y avoir après. Pourquoi? Parce que bon, le SPJ justement était là. Et je me disais aussi, bon, ben, eux, ils sont là pour ça, ils sont là pour m'aider à trouver une solution et tout. Et par après, je me suis rendu compte de beaucoup de choses et voilà, quoi.
Tu t'es rendu compte de quoi?
Ben qu'il faisait pas énormément pour moi, donc ouais c'est vrai, il téléphonait etc. mais sans plus quoi. À mon avis, ce qu'ils attendaient c'était plus des démarches de ma part quoi. Ils se disaient pour moi ce qu'ils se disaient c'est tu t'es mis dans la merde, ben maintenant t'assumes et tu te démerdes quoi. Donc voilà, je sais pas.
Et maintenant, tu te retrouves dans une IPPJ.
Ouais. Et pourquoi? Ben en fait, ce qui s'est passé c'est quand j'étais dans la rue, à un moment, j'en ai vraiment eu marre. Et j'ai dit, maintenant c'est terminé, faut que ça bouge, parce que j'en avais vraiment marre, vraiment, vraiment marre de la rue. Et donc, j'ai été me renseigner dans un centre. C'était un centre médical pédiatrique, en fait. Et c'était comme un hôpital pour enfants, où j'avais déjà été quand j'étais petit, quand mes parents venaient de décéder. J'avais été là-bas parce que bon, je pétais un plomb et tout, donc j'ai été suivi là-bas pendant quelques semaines. Et j'ai été les revoir et tout, ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe Bruno et tout, et je leur ai dit écoutez, ça va pas.
Striker. Reprends en disant strike.
Ouais. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Et je leur ai demandé, ils m'ont dit qu'est-ce qui se passe Striker et tout, ben je leur ai dit ben voilà, ce qui se passe, c'est que je suis dans la rue et tout, et ça va vraiment pas. Ils m'ont demandé de leur expliquer et tout. Et je leur ai dit, ben voilà, j'étais en autonomie, j'ai foiré, etc. Et ils m'ont dit, écoute, on va voir ce qu'on peut faire pour toi, mais ce qui est sûr, c'est qu'on te laissera pas dans la rue. Et j'ai dit, ok. Et par après, ils m'ont aussi demandé, et le SPJ, qu'est-ce qu'ils font pour ça et tout. Et je leur ai répondu la même chose que maintenant, ben, ils bougeaient pas trop, que c'était à moi à faire les démarches. Et bon, ben, ils m'ont dit, ok, ben, on verra ce qu'on peut faire et tout. Puis une semaine après, j'ai été les revoir parce qu'ils m'ont dit on reporte le rendez-vous à la semaine prochaine, le temps que tu nous laisses réfléchir et tout. Et ils m'ont dit écoute, il nous reste une place, donc on veut bien t'accueillir, mais pas pour un long séjour. C'est juste le temps de trouver quelque chose. Et je leur ai dit ok. Et par après, ben je me suis installé là-bas et tout, je me suis bien intégré dans le groupe, etc. Et bon, un jour, ben, je vois de loin, parce que bon, le pavillon, en fait, c'est un énorme domaine, et le pavillon où j'étais, ben, de là, on voyait un peu tout le domaine, et de loin, je vois un jeune de ma section, donc il avait quoi, il avait 9-10 ans, je sais plus exactement, et je le vois de loin, et je vois un autre mec à côté de lui, qui est dans l'autre section, qui était là pour obésité, et le mec, il faisait facilement... Allez quoi, 1m95, un truc comme ça, et il avait son poids quoi, à côté du petit gamin qui était là, il savait pas trop quoi faire, il voulait rentrer dedans et tout, et moi je vois ça de loin, donc j'observe la situation pour voir si ça va pas dégénérer, et je vois qu'à un moment, ben il lui met une tête, un balayage, etc., ben il commence à s'en prendre au petit quoi, alors je pique une pointe jusque là-bas, et je le défends, et bon, malheureusement j'ai pas voulu, mais j'ai été peut-être un peu trop loin avec la haine et la colère, vu ce qui s'est passé dans ma tête avant. C'était peut-être pas une bonne raison, mais en attendant, je l'ai fait. Et ben par après, le mec, lui, il a rien fait. Il est rentré dans sa section et tout. Et il est rentré en week-end. Ses parents ont porté plainte sur moi parce que je l'avais laissé des traces. Et comment par après, ben le SPJ a dit, écoute, c'est terminé, nous, on travaille plus avec toi. Et je dis, ok, je vais faire comment alors maintenant? Et ils m'ont dit, maintenant, tu vas être rentré en 10-4 délinquant. Donc ça veut dire que tu vas plus dépendre du SPJ mais du TJ, donc Tribunal de la Jeunesse. J'ai dit ok. Et le centre où j'étais, ben ils m'ont dit que c'était fini, que je pouvais plus être là-bas vu que j'avais frappé quelqu'un. Donc je suis rentré en IPPJ et de là j'ai fait 15 jours, donc en section accueil. Puis j'ai été au tribunal, elle m'a prolongé de 15 jours. Puis j'ai été au tribunal, elle m'a prolongé de 40 jours. Puis j'étais au tribunal et pendant les 40 jours que j'avais fait, j'avais composé un projet et tout. J'avais composé un projet, ouais. Et j'avais été dans une IMP, donc Institut Médical Pédiatrique. Et là, bah, ça se passait bien aussi. Tout était beau, tout était tout rose et tout. Puis un jour, bah, je me suis de nouveau battu. Et là, ben, j'ai aussi de nouveau laissé des traces et tout, mais le mec a pas porté plainte. Par contre, ma juge m'a convoqué et elle m'a dit, quand je me suis rendu au tribunal, elle m'a dit, je te replace 15 jours en accueil, donc tu refais 15 jours en IPPJ.
Et elle t'a dit pourquoi ?
Ben, elle m'a dit que c'était parce que, comment, l'autre fois à Clairvallon, j'avais abusé de ma violence et tout ça. Que maintenant ça se reproduit, que les faits précédents se sont reproduits et tout, donc que pour elle c'était des faits qualifiés et que je méritais 15 jours en IPPJ.
Mais c'était pas une simple tarte que tu avais donnée au gars?
Ah non, non, non. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était à table et tout, et bon, on s'est disputé pour une bête connerie, en plus c'est vrai, il y avait une course de caisse à savon, et on voulait savoir qui conduisait dans la voiture, quoi. Et il voulait, et moi aussi, et j'ai dit, écoute, s'il te plaît, laisse-moi conduire et tout. Je lui dis peut-être d'une façon un peu méchante et tout. Et par après, il m'a dit ta gueule et tout.
Ça a dégénéré, quoi.
Ouais, voilà, exactement. Et c'est parti en couille. Et le mec a dû se faire des points de suture. Et donc là, je m'a convoqué. Elle m'a dit tu refais 15 jours. Après les 15 jours, donc l'IMP où j'étais a été gentil. Elle m'a réaccueilli. Et là, alors, à ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux plus travailler avec vous parce que j'avance pas, je reste sur place, quoi. Je veux plus être interné, faire une vie de groupe et tout ça. Je vais bientôt avoir 18 ans, faut que je me lance, quoi. Ils m'ont dit, ok, ça va. Et ils ont eu une réunion, ils ont réfléchi à ça et tout. Et après la réunion, ils m'ont dit, écoute, on doit te parler. Et ce qu'ils m'ont dit, ils m'ont dit que ils me mettaient une semaine en écartement pour voir un peu de quoi j'étais capable et tout. Parce que je leur avais dit que je voulais vivre en autonomie et tout. Ils m'ont dit, écoute, on demande une semaine en écartement. Oui. Et tu verras ce que tu peux trouver, si tu sais trouver un code, si tu sais te démerder pour avoir un emploi, etc. Pour pouvoir payer tous les frais que tu devras assumer. Et j'aurais dit ok, ils m'ont mis une semaine en écartement, après j'ai dû retourner. Et je suis retourné et j'ai trouvé seulement un code, mais un emploi j'avais pas trouvé. Mmh. Alors ils m'ont dit on te remet une semaine en écartement pour trouver un emploi. Et j'avais toujours pas trouvé, et ça a été comme ça pendant un mois, tout le temps une semaine en écartement et tout. Et après un mois, j'ai eu une convocation donc au tribunal de la jeunesse chez ma juge de nouveau. Et elle m'a dit puisque t'as rien trouvé et tout ça, et que vu que tu veux plus travailler avec l'internat où tu es et tout, moi je décide de te placer 6 mois. En éducation, donc 6 mois en éducation, c'est être placé en IPPJ.
Et tu me disais par rapport à ça, ce que tu pensais de ton placement maintenant, c'était normal, mais quand même tu avais des... Tu me disais quand même tu étais d'accord, mais pas tout
à fait. Ouais, parce que bon, voilà, cette fois-là, j'ai pas commis de fait qualifié par rapport à la loi. J'avais juste pas d'endroit où aller, donc... C'est sûr que un cadre comme il y en a en IPPJ et des règles comme il y en a, c'est clair que j'en ai besoin. Tout le monde a toujours besoin d'un peu de règles. Mais je veux dire, j'ai pas commis de fait qualifié pour être placé en IPPJ. Je veux dire, elle aurait pu me placer en centre d'accueil d'urgence ou un truc du style, à la place de me mettre 6 mois dans un truc fermé, quoi. Enfin, pas fermé, mais je veux dire, c'est quand même un centre pour jeunes délinquants, quoi.
Striker.
Oui.
Tu m'as proposé de la musique.
Ouais.
Je pense qu'on va faire une petite pause.
Ça va.
Je sais pas si ça va nous reposer, hein. Mais... C'est quoi cette musique, Strike?
En fait, c'est une petite intro de La Rivers. Donc La Rivers, c'est une soirée, malheureusement, où j'ai pas pu aller, mais que j'aurais beaucoup aimé pouvoir voir ce qui se passait. Parce que bon, c'est la musique que j'aime bien, ça s'appelle de la textile en fait.
Et dis-moi, t'écoutes uniquement ce genre de musique?
Non, j'écoute aussi de l'R&B. Avant j'écoutais du rap, mais maintenant c'est terminé. Sinon j'écoute beaucoup de textile, hardcore, French tech, etc. quoi.
Ouais, et ça c'est vraiment une musique qu'on écoute dans un milieu particulier?
Ouais, c'est... Bon, on n'entend pas ça partout, ça c'est clair. Moi, le seul endroit où, enfin, les seuls endroits où je vais c'est pour écouter ce genre de musique, c'est ou au complexe qui se trouve.
C'est pas de pub pour des boîtes, hein.
Au complexe et au Sotos.
Parce que ce sont des grosses boîtes, quoi.
Ouais, c'est des boîtes de nuit.
Qui ne passent que ce genre de musique.
Ouais, voilà. Et parce que ce genre de musique-là, et où seulement l'autre endroit aussi, c'est dans ma chambre, devant mon ordinateur, sinon c'est tout.
Je vais te poser la question d'un gros naïf, hein. Je suis un grand naïf, mais est-ce que on peut se passer de drogue en restant 4-5 heures en écoutant cette musique?
Franchement, moi je peux dire que j'ai pris ça peut-être une fois ou deux, mais oui, c'est possible de se passer de drogue, parce que voilà, c'est clair que les gens qui dansent sur cette musique pendant 4-5 heures ou pendant toute la nuit, c'est sûr qu'ils peuvent prendre certaines choses.
Toi, tu as vu ça?
Moi j'ai vu ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours chouette à voir, mais en même temps qu'on est dans l'ambiance, on s'en fout. Mais
pourquoi c'est pas chouette à voir?
Parce que bon, il y a des gens qui bavent sans faire exprès, il y a des gens qui ont les yeux tout blancs, il y a des gens qui ont les yeux retournés et tout. Il y a des fois où ça finit mal, comme il y a des fois où on les voit danser, on dirait que c'est... Ils vont hyper vite, quoi. On se demande vraiment comment ils font, mais c'est clair que c'est pas conseillé.
Et ça, tu l'as découvert quand, le monde de la nuit?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que bon, quand je suis parti vivre un peu chez ma sœur et tout ça, j'allais avoir 16 ans. Et j'ai rencontré une fille qui c'était la fille de la patronne de ma sœur, et j'ai sympathisé avec, etc. et tout, et par après elle a rencontré un garçon, et c'est ce garçon qui m'a fait découvrir un peu tout ce monde là Ils sont restés ensemble pendant, on va dire, un an ou deux, et après ils se sont séparés, et comme lui il était super mal et que j'avais créé un énorme lien d'amitié avec, je l'ai soutenu à mort, et la fille m'a dit, écoute, ça peut pas continuer, ou tu choisis lui ou tu choisis moi, et moi j'ai choisi le garçon. Pourquoi? Parce que c'est un garçon hyper gentil, qui est à l'écoute de tout le monde, il fait vraiment tout son possible pour pouvoir aider les gens. Donc je lui ai dit à la fille, écoute, désolé, mais alors c'est time entre nous, moi je prends Kalak, quoi. Et elle m'a dit ok, ça va, et sur ça elle a raccroché. Et ce garçon, quand j'étais dans la rue et tout ça, donc comme j'avais dit là tantôt, ma tante de cœur et tout, c'est sa maman. Parce que quand j'étais dans la rue et tout ça, sa maman m'a énormément aidé. Et elle était super gentille avec moi et tout, et le gars aussi. Et bon, quand j'étais chez elle et tout ça, vu que mon tuteur me verse des sous sur mon compte par semaine, de temps en temps, je faisais une petite sortie et tout, et c'est lui qui m'a fait découvrir tout ce monde-là, et voilà.
Et lui, il est plus âgé que toi?
Oui, il a eu il y a pas longtemps, il a eu 18 ans. Il a été majeur, et on a fait une grande fête pour son anniversaire, et voilà.
Et lui, il est pas passé par les centres?
Non, il a eu beaucoup de chance. En fait, ce qu'il y a eu, c'est que il a eu des difficultés comme moi de comportement. Et il a pu être pendant un petit moment à l'école, puis il y est retourné et tout, il a suivi les cours correctement et tout, et maintenant il a fait ce qu'il fallait pour pouvoir travailler et tout. Mais il a pu être à l'école pendant quelques mois, mais sans plus, quoi.
Et toi, par rapport à l'école, t'en es où?
Oui.
Toi, t'es arrivé jusqu'en quatrième secondaire.
Ouais, voilà. C'est ça, je suis arrivé en quatrième secondaire, en fait, donc j'étais en premier accueil, puis j'étais en première professionnelle, et en première professionnelle, on nous fait tourner dans divers ateliers, pour un peu choisir ce qu'on veut faire, et moi, vu que mon papa tenait 3 restaurants, et que, je l'ai beaucoup aidé et tout ça, l'hôtellerie me plaisait beaucoup, donc j'ai choisi l'hôtellerie. Et maintenant, je suis arrivé en quatrième hôtellerie et j'espère pouvoir faire le mieux pour avoir le diplôme, quoi.
Mais ce que tu m'avais dit aussi, c'était 8 heures assis sur un banc.
Ah oui.
C'est trop dur.
Ah oui, oui, voilà. C'est surtout pour ça que j'ai dû aller en professionnel. En fait, ce qu'il y a eu, c'est que, un gars qui veut, par exemple, étudier, on va dire, le droit, il doit suivre des cours, lire des bouquins sans s'arrêter, etc. Il doit vraiment bien étudier et tout. Tandis que quelqu'un qui choisit un métier qui est plus pratique, il reste pas toute la journée assis, ou bien il se met pas à lire pendant des heures et tout. Moi, personnellement, je pourrais pas supporter de rester assis, pouvoir lire autant, et etc., étudier et tout, sans m'arrêter comme ça à l'école. Quand j'étais en primaire, et en plus c'est encore plus dur en secondaire, quand j'étais en primaire, je devais rester de 8h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi assis, sauf les temps de récréation, de midi, etc. Mais déjà, ça me saoulait. Alors, en secondaire, c'est encore plus dur. Je pourrais pas, quoi.
Et dis-moi une question un peu comme ça, mais l'univers de l'école, des amis, est-ce que ça ne te manque pas, ça?
Je vais être honnête, oui, ça me manque un peu. C'est clair que, me lever le matin en me disant, je vais voir un tel, je vais voir l'autre, je vais voir... elle et tout, c'est clair que j'ai plus cette sensation là parce que ça fait un petit temps que j'ai plus à l'école, et ça me manque, ouais.
Et ici, tu suis déjà une formation ou bien...
Oui, pas au sein de l'IPPJ, mais sinon, ouais, en hôtellerie, oui.
Être libre, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te souviens de ça?
Oui, être libre, ça veut, comme je vous l'ai dit, ça voulait dire beaucoup de choses. Ça veut dire ça veut dire énormément de choses. Être libre, ça dépend de quelle façon on le voit et tout. Donc pour moi, être libre, c'est pouvoir partir dans un autre pays étranger avec les personnes que j'aime beaucoup et tout, et pouvoir faire ma vie là-bas sans avoir de soucis, ne plus penser à tout ça, à la juge et tout, parce que c'est pas cool, quoi, d'avoir une juge derrière soi qui essaye de nous faire changer tout ça. Donc voilà, être libre, c'est ouais, pouvoir faire un peu ce qu'on veut.
Et ce que tu m'avais dit aussi, c'est que t'es, par rapport à certains centres où t'es allé, tu préférais encore mieux être dans l'univers de la rue.
Oui, par rapport à certains centres, oui. Par exemple, le premier centre que j'ai fait, l'IMP, près de la frontière française, ben, comparé à celui-là, ben, j'aurais préféré être à la rue, ouais, c'est sûr. Pourquoi? Ben, parce que, déjà qu'on est à la rue, on est libre. Et, quand on est dans la rue, il n'y a pas énormément de règles. Quand on est dans la rue, ben, on fait un peu ce qu'on veut. Il y a personne qui est derrière soi, derrière nous, pardon, pour dire, Striker, c'est l'heure de passer à table. Striker, tu peux aller aux toilettes. Striker, etc. C'est un peu chiant, la fin d'avoir tout le temps des éducateurs qui nous courent derrière et tout. Surtout quand on vient d'avoir 17 ans et demi et qu'on sent la majorité approcher. Ça devient un peu dur, quoi.
Et quand tu dis ça, quand on est derrière toi pour tout ça, c'est aussi ici que tu le vis, ça?
Oui, ici encore plus, parce que bon, on est en IPPJ, donc c'est un centre pour des jeunes qui ont commis des faits qualifiés et tout, donc c'est encore plus strict. Ici, ben ouais, c'est encore beaucoup plus strict. Par exemple, pour prendre une douche, il nous faut 2 minutes, pas plus. Pour aller aux toilettes, on peut aller à la fois aux toilettes pour qu'il n'y ait pas de trafic, de business et tout ça. Pendant les activités, si on parle avec les autres sections et tout ça, ben on va en relance, ou bien on a un M. Le M, par exemple, en fait, on fonctionne avec des cotes. Si on a un M, ça veut dire mauvais. Ça veut dire que bon, la journée s'est mal passée et tout, donc on a une mauvaise cote. Et à la fin de la semaine, en fait, ils font un bilan et ils nous disent la moyenne de la semaine avec les cotes. Et c'est par rapport à ça qu'on sait voir si on peut retourner le week-end ou pas. Donc par exemple, si j'ai un B comme B1, ben je peux retourner en week-end. Si j'ai un M, ben j'oublie mon week-end, quoi, et je passe à la semaine prochaine et je me comporte mieux pour pouvoir partir voir ma famille.
Tu crois qu'il y a des jeunes qui font semblant pour pouvoir partir?
Oui. De temps en temps, même moi, je fais semblant. Mais oui, il y a énormément de jeunes qui font semblant pour pouvoir partir. Même si de temps en temps, on arrive à faire l'une chose ou l'autre entre nous, ouais, il y a beaucoup de jeunes qui font semblant, ouais.
Qu'est-ce qu'il faut penser alors de...
Ben, écoutez, des fois, ils se voient tellement bien la face qu'on ne le voit pas du tout. En tant qu'éducateur, je parle là, parce qu'entre jeunes, on sait tout ce qui se passe et tout, donc il y a des éducateurs qui voient vraiment que dalle, quoi. Ils sauraient pas dire que, par exemple, un jeune aurait ramené du shit ou des trucs comme ça, c'est vraiment hard.
Mais imagine qu'on utiliserait, imagine que les gens entendent ça.
Ouais.
Ils pourraient penser que l'IPPJ, c'est pas assez strict, tout ce genre de trucs.
Si, non, c'est pas ça que je veux dire, c'est que l'IPPJ, c'est strict à mort et tout, mais je veux dire... C'est comme j'ai dit l'autre fois, si un gars veut faire quelque chose, c'est pas parce qu'il y a écrit sur un morceau de papier qu'on peut pas, ou bien c'est pas parce qu'on lui dit « ouais, tu peux pas, sinon il y aura ça qui se passera », c'est pas parce qu'on dit ça à un jeune ado qui a eu un passé dur ou qui a fait des choses qu'il fallait pas faire, qu'il va pas le faire. C'est n'importe quoi, pour moi, ça se peut pas.
Et comment toi tu vis ton passage ici avec des jeunes qui parfois ont commis d'autres...
Ben, c'est sûr que c'est pas du tout mon monde, parce que bon, moi je suis pas là pour d'énormes fêtes de délinquance, à part des bagarres. J'ai pas commis de vol, de cambriolage, etc. J'ai pas commis tout ça, mais ouais, non, c'est sûr que c'est pas du tout le monde dans lequel je vis en général. Et j'entends des mecs des fois qui me disent voilà, moi j'ai envie d'aller au quartier tranquille, me poser, fumer mon joint et tout, mais moi c'est pas du tout mon genre de truc. Moi alors à ce moment-là, je préfère être dans le jardin, boire un apéro avec les potes et péter de rire, quoi. C'est différent.
Ici, ce n'est pas le même monde par rapport aux autres jeunes. Il y en a qui ne réfléchissent pas, ils sont en dehors de la réalité, et ils recommenceront.
Ouais, voilà, ben en fait c'est ce que j'ai dit, oui. Pourquoi? Parce que bon, quand j'entends un gars qui me dit plus tard je vais bouger dans un autre pays, je vais aller faire du trafic de coke et tout, je me dis que franchement il est en dehors de la réalité, que ce qu'il dit c'est pas du tout, il est en dehors de la réalité, quoi. C'est il réfléchit pas quand il dit ça, parce que déjà, il pense pas aux conséquences que ça pourrait apporter, parce que il est déterminé, il cherche qu'à se faire de l'argent. Et bon, comme j'ai dit l'autre fois, c'est comme ça. C'est quand le jeune aura décidé de changer qu'il changera, c'est tout.
Ou il ne changera jamais.
Voilà, malheureusement.
Alors après, c'est ma question là. Pourquoi on est sur Terre ?
Ah, pourquoi on est sur Terre ? on est sur Terre parce que voilà, c'est comme ça. Je sais pas pourquoi on est sur Terre. C'est pas le genre de question que je me pose.
Tu me disais faut demander, mais tu ne sais pas à qui.
Ouais, voilà. C'est ça en fait. Hein. Faut le demander, mais à qui, ça je sais pas.
Moi j'ai deux propositions.
Ouais, moi aussi.
Lesquelles ?
Ou Dieu, ou bien le Big Bang, etc. La science, quoi.
Moi j'ai deux autres propositions.
Ah bon ?
Apprendre à se connaître et à être heureux.
Pas mal, j'avoue.
Merci. Est-ce que toi, tu te connais ?
Ouais, il y a... Peut-être que je me connais pas tout à fait, j'en sais rien du tout, mais c'est clair qu'il y a certaines choses de moi que je connais très bien. Comme il y a peut-être d'autres choses que je vais découvrir par après, je saurais pas dire, mais jusqu'à maintenant, oui, je me connais, oui.
Et tu te construis, quoi.
Ouais, voilà.
Et la deuxième, le être heureux.
Être heureux, ben pour moi être heureux ça veut dire ouais, ça veut dire qu'on n'est plus rien à reprocher à personne, qu'on fait notre vie sans avoir de soucis, plein de choses comme ça, quoi, que on n'est pas la police qui court à plein de coins de rue après des jeunes ou d'autres personnes. Voilà, c'est ça, être heureux, c'est pouvoir vivre tranquillement sans craindre les choses ni rien. Je dis pas ça pour moi, je dis ça pour surtout les personnes âgées, par exemple. C'est peut-être un exemple pour certaines personnes, mais moi je pense souvent aux personnes âgées. Une personne âgée, par exemple, quand je passe à côté d'elle, même si moi je sais que je vais rien lui faire, la personne âgée baisse les yeux et on va dire qu'elle se pisse presque dessus, parce que voilà, ils ont vu ou subi presque toutes des choses que les jeunes leur ont fait ou d'autres personnes, qu'elles savent très, très bien ce qui va se passer et tout, donc voilà.
On est au départ avec normalement les parents qui nous aident à grandir.
Ouais, voilà. Ben, comment... Ouais, au départ on est là, on est et tout. Il y a des gens qui nous aident et tout. Et ces gens sont nos parents. Ils nous aident, ils nous lancent et tout ça. Puis ils nous aident à devenir autonomes. Pour certaines personnes, pour d'autres qui n'ont pas eu de chance, ben, ils devront faire ça tout seuls. Mais les gens qui ont leurs parents, moi je leur conseille de rester avec eux le plus longtemps possible, parce que voilà, c'est les personnes qui peuvent vous aider le plus et qui vous lanceront peut-être dans une belle vie, quoi. C'est ça, pouvoir être heureux.
Et ce qui te rendrait vraiment heureux, c'est ce que tu m'avais dit, mis à part des miracles. Tu te souviens pas ?
Non. Ah oui, c'est bon, oui. Partir avec ma famille d'accueil.
Aller vivre et travailler,
ouais,
ailleurs.
Aller vivre et travailler ailleurs, je l'ai dit là tantôt, oui. Aller vivre et travailler ailleurs avec ma famille de cœur, qui a fait énormément pour moi et que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aller vivre avec eux en Espagne, pouvoir travailler, faire ma vie tranquillement et oublier tout le reste et tout le monde, quoi.
Est-ce que tu te considères être comme un ado comme les autres ? Tu te souviens de ce que tu m'as
dit ? Oh, ouais. Oui et non. Oui, pourquoi ? Parce que je suis un adolescent, je suis un jeune mec qui fait sa vie et tout ça. Et le non, non, pourquoi ? Parce que il y a certains ados qui, comme j'ai dit là tantôt, sont pas dans la réalité, qui ce qu'ils disent n'est pas concret, ils sont pas lucides ni rien, ils cherchent seulement à faire des braquages ou des trucs comme ça, donc. Moi, ouais, je me prends pour un ado comme les autres, mais il y a des périodes où je me dis, putain, je croirais avoir un terroriste devant moi, quoi.
Tu quoi ? Tu ?
Je croirais avoir un terroriste devant moi.
Qui ?
Ben moi, je croirais avoir un terroriste devant moi.
C'est comme si t'avais deux personnalités, là.
Ouais, voilà.
Est-ce que tu fous ? Vous voyez des psys, ici ?
Ouais, on voit des psychologues, ouais.
Mmh. C'est la maturité qui changera quelqu'un.
Ben ouais, c'est clair. C'est ce que j'ai dit l'autre fois, Quand la personne aura décidé de changer, qui changera, la maturité va arriver, il va se rendre compte de beaucoup de choses, il va se dire que les victimes qui étaient là et tout, ben, elles ont subi certaines choses qu'on leur a fait et tout, et c'est là que la maturité arrive et qu'ils vont se rendre compte de beaucoup de choses. Ça s'appelle la remise en question.
Je te remercie mille fois, Srek.
De rien.
Et on arrive tout doucement, on arrive même sûrement à la fin de ton émission. Et moi, comme je vais faire avec tous les jeunes, je vais te proposer un mot de la fin. Et oui.
Ok, ben, mon mot de la fin, c'est dédicace à tous les complexés.
Je te remercie mille fois. Et puis, je vais te souhaiter le meilleur pour ton avenir, Striker.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Oui, j'espère. Au revoir.